VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 17 octobre 2022, en direct de Washington, Idrissa Sebudia. Pour commencer, les titres. Au Niger, deux personnes ont été tuées par un engin explosif dans la région de Diffa, proche du Nigeria. Au Sénégal, la gendarmerie disperse des partisans de l'opposant Ousmane Sonko en tournée dans l'ouest du pays. En Guinée équatoriale, deux candidats contre le président Teodoro Obiang Nguema qui brigue un sixième mandat le 20 novembre. 600 morts et 1,3 million de déplacés depuis juin, tel est le dernier bilan des inondations au Nigeria. Éthiopie, nouvel appel de l'Union africaine à en cesser le feu, les rebelles du Tigré prêts à le respecter. En Chine, ouverture hier du congrès du PC, le président Xi Jinping prône l'unité derrière lui avant un probable troisième mandat. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Deux personnes ont été tuées hier dimanche au Niger après que leurs animaux ont sauté sur un engin explosif enfoui sur une route dans la région de Diffa, proche du Nigeria, ont indiqué des sources locales. Le point avec Abdourahmane Dia.
Deux femmes ont été tuées et un enfant gravement blessé lorsqu'un engin artisanal a explosé au passage de la rame près de Bosso, a déclaré un résident de Bosso. Un responsable de cette municipalité a confirmé l'accident en faisant état de deux morts sans donner de détails. Bosso est une ville située sur les rives du lac Tchad, souvent ciblée par des attaques de Boko Haram et de sa branche dissidente, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Début septembre, plusieurs pêcheurs nigériens et Nigérians ont été tués par des djihadistes pour avoir désobéi à un ordre de quitter la zone du lac Tchad. La région de Diffa, à cheval entre le Niger, le Nigeria et le Tchad, est la cible régulière depuis 2015 de raids de ces deux groupes.
Au Sénégal, des partisans du principal opposant Ousmane Sonko en tournée dans l'ouest du pays ont été dispersés hier soir par la gendarmerie qui leur reprochait un attroupement illégal selon le parti de M. Sonko et des images sur les réseaux sociaux. C'était à Mbour, une ville à 80 km au sud de Dakar, où la tournée a débuté. La gendarmerie n'a pas fait de déclaration. M. Sonko, 49 ans, candidat à la présidentielle de 2024, a annoncé samedi une tournée nationale avec surtout des visites de proximité à des proches, des guides religieux et des responsables de son parti. En Guinée équatoriale, deux candidats vont affronter le 20 novembre le président sortant qui brigue un sixième mandat après plus de 43 ans à la tête du pays. Le point avec Lionel Gahima.
Le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo est candidat du Parti démocratique de Guinée équatoriale qui détient 99 des 100 sièges à l'Assemblée nationale et la totalité de 55 sièges du Sénat. Andrés Essono Ondo va défendre les couleurs de la Convergence pour la démocratie sociale, seul parti d'opposition. Buenaventura Monsui Asumu va représenter la coalition social-démocrate, jusqu'alors alliée au parti au pouvoir. Essono Ondo se présente pour la première fois et Monsui Asumu pour la troisième fois. Depuis plusieurs semaines, les forces de l'ordre mènent une campagne d'emprisonnement disant qu'elles ont déjoué un complot pour perpétrer des attentats contre des stations d'essence, des ambassades et des domiciles de ministres. Après l'arrestation de plus de 150 militants du parti interdit, Citoyens pour l'innovation, dont son chef Gabriel Saint Obiang Obono, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale basé au Cameroun a dénoncé une vague de répression destinée à faire taire la population à l'approche des élections.
Plus de 600 personnes sont mortes et 2400 autres ont été blessés depuis juin dans les inondations les plus meurtrières de la décennie au Nigeria, provoquées par des pluies exceptionnelles qui ont forcé 1,3 million d'habitants à fuir leur foyer, selon un nouveau bilan des autorités qui faisait état de 500 morts la semaine dernière. Depuis le début de la saison des pluies, de nombreuses régions de ce pays ont été ravagées par des inondations, faisant craindre une aggravation de l'insécurité alimentaire et de l'inflation. L'Afrique subsaharienne est particulièrement touchée par le changement climatique et nombre de ses économies sont aux prises avec les répercussions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En Éthiopie, les rebelles du Tigré ont assuré hier être prêts à respecter un cessez-le-feu après l'appel de l'Union africaine à une pause immédiate dans les combats pour entamer des pourparlers de paix. Les détails avec Eric Manirakiza.
Nous sommes prêts à respecter une cessation immédiate des hostilités, a déclaré l'offrande de libération du peuple du Tigré. Nous appelons également la communauté internationale à contraindre l'armée érythréenne à se retirer du Tigré et à faire pression sur le gouvernement éthiopien pour qu'il vienne à la table des négociations, précise le TPLF. La ville de Shire, dans le nord-ouest du Tigré, a été bombardée pendant plusieurs jours lors d'une offensive conjointe des troupes éthiopiennes et érythréennes qui a fait plusieurs victimes civiles. L'Union africaine a appelé hier dimanche les belligérants à se réengager dans les pourparlers de paix. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est joint aux États-Unis pour dire sa préoccupation face à l'aggravation de la violence et l'impact sur les civils. Le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed et les autorités tigréennes ont accepté une invitation de l'Union africaine à discuter, mais les négociations qui devaient commencer le week-end dernier en Afrique du Sud n'ont pas eu lieu.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Chine, le président Xi Jinping a donné hier à Pékin le coup d'envoi du 20e congrès du Parti communiste chinois. Il a défendu son bilan de ces 5 dernières années et tracé les priorités à venir de son pays. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Xi Jinping, 69 ans, est arrivé à la tribune du Palais du Peuple sous un tonnerre d'applaudissements avant d'entamer un discours de plus d'une heure trente. Il a demandé au parti de s'unir car, selon lui, la victoire requiert l'unité. La Chine a privilégié la population et les vies humaines dans la lutte contre le coronavirus, a assuré Xi Jinping en réponse aux critiques sur sa stricte politique de zéro Covid. Il a salué ce qu'il qualifie de transition du chaos à la gouvernance à Hong Kong. Il a aussi dénoncé tout séparatisme et ingérence sur Taïwan que Pékin considère comme partie intégrante de son territoire. Il a réitéré que la Chine privilégie une réunification pacifique avec l'île sans renoncer au recours à la force éventuelle si nécessaire. Il a affirmé que dans sa lutte contre la corruption, au moins 1,5 million de personnes ont été sanctionnées, mais pour ses critiques, cette campagne a été un outil politique destiné à faire tomber des rivaux. Enfin, dans une claire allusion aux États-Unis, il a réaffirmé que son pays s'oppose à toute forme d'hégémonisme et à la mentalité de guerre froide, à l'ingérence dans des affaires intérieures d'autres pays et à la pratique du deux poids, deux mesures.
En Iran, au moins 4 détenus condamnés pour vol sont morts et une soixantaine ont été blessés dans un incendie à la prison d'Evin à Téhéran après un mois de protestation contre la mort de la jeune iranienne Mahsa Amini, a annoncé dimanche l'autorité judiciaire. Selon ces mêmes autorités, des voyous auraient provoqué samedi soir des affrontements et un incendie dans ce centre de détention tristement célèbre, mais des ONG ont mis en doute cette version. Mahsa Amini est morte le 16 septembre, 3 jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran, pour avoir, selon celle-ci, enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes, prévoyant notamment le port du voile. Par ailleurs, le président iranien Ibrahim Raisi a accusé hier son homologue américain Joe Biden d'inciter au chaos après le soutien apporté par M. Biden à ces protestations qui se poursuivent depuis en Iran. Des dizaines de personnes, principalement des manifestants, mais aussi des membres des forces de sécurité, ont été tués lors des rassemblements qualifiés d'émeutes par les autorités. Des centaines d'autres ont été arrêtés. D'autre part, le président Biden n'a aucune intention de rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman lors du sommet du G20 prévu le mois prochain en Indonésie. C'est ce qu'a indiqué dimanche le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, après que l'Arabie saoudite a pris, a-t-elle expliqué, le parti de la Russie contre les intérêts du peuple américain. La Minute Éco, Eric Manirakidza.
Les gouvernements africains ont exhorté samedi les créanciers à accélérer l'allègement de la dette. Ils estiment que les retards limitent la croissance sur un continent confronté à toute une série de défis, de la forte inflation à l'insécurité alimentaire. Le G20 a convenu d'un cadre commun pour la restructuration de la dette des pays les plus pauvres, mais sa mise en œuvre est lente. Vendredi, la secrétaire d'État américaine au Trésor, Janet Yellen, a accusé la Chine, principal créancier de nombreux pays africains, de ne pas participer de manière constructive et d'entraver les efforts d'allègement de la dette. Le gouvernement éthiopien a interdit jusqu'à nouvel ordre aux banques de fournir des devises aux importateurs d'une quarantaine de produits, notamment véhicules au alcool. Cette mesure empêche de faire leur importation pour réserver à des biens prioritaires les devises dont le pays manque. L'Éthiopie applique une législation stricte sur l'échange, la détention et l'utilisation de monnaies étrangères. Les importateurs doivent s'enregistrer auprès des banques pour obtenir les devises nécessaires à leurs opérations. Le FMI est parvenu à un accord avec le gouvernement tunisien qui va permettre le déblocage d'un versement de 1,9 milliard de dollars en vue de faire face à de graves difficultés économiques. Mais l'accord doit encore être validé par le conseil d'administration du fonds, selon un communiqué publié samedi.
Merci Eric. À présent, les sports avec Élisée Compatine. Élisée, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Le football sur le continent africain avec le deuxième tour retour des qualifications pour la prochaine Ligue des Champions.
Oui, El Wydad de Casablanca défendra bien son titre. Battu 2-1 au Nigeria à l'aller par Rivers United, le WAC a réagi en s'imposant nettement 6-0. Ça passe aussi pour le Raja de Casablanca, double vainqueur des Nigériens de Nijlek. Qualification tranquille des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et des Égyptiens de Zamalek et d'Al Ahly. Les deux clubs soudanais y seront aussi, Al Merrikh et Al Hilal, ainsi que les Angolais du Petro Atlético de Luanda.
Une phase de poule que verra Oroya, tombeur de l'ASEC Mimosa dans le duel de l'Afrique de l'Ouest.
Tout à fait. Le club de Matam s'est contenté d'un nul 1-1 à domicile après avoir remporté 1-0 le match aller à Yamoussoukro. Difficile aussi pour l'espérant de Tunis face au Nigérian de Plateau United. Pour le reste, Coton Sport de Garoua passe devant Royal Leopard de Swatini. Pareil pour les Tanzaniens de Simba qui ont battu en aller-retour les Angolais de Primero do Agosto. Ça cale en revanche pour le TP Mazembe pour la deuxième année consécutive. Cette fois, sorti au tir au but par les Ougandais de Viper. Les Maliens de Djoliba notamment devant le CR Belouizdad. Malgré son succès de 1 il y a une semaine, le club de Bamako a cédé 2-0 au match retour en Algérie. Le dernier qualifié sera connu jeudi à l'issue du match retour entre l'ASV Club de Kinshasa et Rai Club de Kadiogo. Congolais et Burkinabé n'ont pas pu se départager lors du premier match.
La campagne africaine n'est totalement pas finie pour les équipes éliminées.
Exactement, puisqu'elles devront disputer un match de barrage contre les qualifiés de la Coupe CAF. Un tour de cadrage que va disputer le tenant du titre, la Renaissance de Berkane, qui a renversé les Nigériens de Kwara United. Pareil pour le second représentant marocain, l'ASFA, facile vainqueur des Guinéens d'Argenti Golden Boy. Ça passe facilement aussi pour les deux représentants égyptiens, Pyramide et Futu FC, tout comme les Congolais du FC Lupopo et de Darin Klo Motéba Pembe. La suite, les Ivoiriens de Gayoua ont réalisé l'exploit d'éliminer les Algériens de la JS Aoura. 1-0 à l'aller, pas de but au retour. Qualification également des Diables noir du Congo suite à leur succès 3-0 sur les Mozambicains de Ferroviaro Beira. Par contre, les Ghanéens d'Asofoc n'iront pas plus loin que ce second tour préliminaire puisque éliminés par les Maliens de l'AS Real de Bamako. A noter que le tirage au sort des barrages aura lieu demain au Caire.
Basketball, on connaît les deux qualifiés de la zone B de la division Ouest pour le prochain tour de qualification de la Basketball Africa League.
Ce sera les Centrafricains de Bangui Sport et les Équato-Guinéens de Nueva Era qui représenteront cette zone dont les éliminatoires ont eu lieu à Yaoundé au Cameroun. Dans une poule à trois équipes, après le forfait des Congolais de Vita Club, ces deux formations ont dominé les Gabonais d'Espoir BC pour assurer leur qualification pour l'élite 16 prévue en novembre prochain du côté de Cape Town en Afrique du Sud.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, des assises nationales ont désigné ce week-end le capitaine Ibrahim Traoré pour diriger la transition. L'auteur du coup d'État du 30 septembre qui a chassé du pouvoir le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba est donc le président de la transition. D'autres décisions majeures ont été prises lors de ces assises, notamment le nombre des membres des prochains gouvernements et assemblées législatives. La durée de la transition reste aussi inchangée, 21 mois à compter d'octobre. Des participants à ces assises nationales se disent satisfaits des travaux et des résultats obtenus. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À l'unanimité, le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné président de la transition par l'ensemble des 300 participants à ces assises nationales. Pendant plusieurs heures, les participants ont débattu et adopté les 27 articles que comporte la charte de la transition signée par le capitaine Ibrahim Traoré. On retiendra de cette charte que le prochain gouvernement ne doit pas dépasser 25 membres. L'Assemblée législative de transition, elle, comptera 71 membres comme la précédente. Ceux-ci ne seront pas rémunérés contrairement à l'ancienne version, mais percevront des frais de session. La durée de la transition est fixée à 21 mois. Les élections interviendront en juillet 2024, comme l'avait souhaité la CEDEAO. Tous les participants s'accordent à dire que les travaux se sont déroulés dans une bonne ambiance. Clément Savadogo est de l'ancienne majorité, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès.
Les travaux se sont déroulés dans la sérénité, dans un esprit d'ouverture, de débat franc et empreint de respect mutuel. Et les résultats de ces travaux sont à la hauteur des attentes. Nous, en tant que participants, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que la charte qui va régir cette transition soit une bonne charte.
Ablasse Ouedraogo, acteur politique de l'ancienne opposition.
En 4 titres et 27 articles, la charte de la transition que le président Traoré vient de signer ouvre au Burkina Faso de nouvelles perspectives. En 14 heures d'activité, de travail, d'échange, de discussion, les Burkinabés ont été capables de tracer le chemin qui va ramener la paix, la stabilité, la sécurité, la cohésion sociale, parce que la réconciliation est prise en compte, et bien sûr le développement durable.
Eddy Kombeugo, le président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, ancien chef de file de l'opposition, demande le soutien de la communauté internationale.
À la communauté internationale d'apporter un appui ferme et fort à cette transition pour aider les Burkinabés à bouter les terroristes dévorants et retrouver la paix, développer le pays pour le bien-être des populations.
Des défis énormes attendent les nouveaux dirigeants. Rachid Bari, consul honoraire du Burkina à Houston aux États-Unis, est l'un des représentants de la diaspora à ces assises nationales.
La préoccupation pour nous maintenant, c'est que le gouvernement parte au front pour la reconquête du territoire et pour encore travailler à réinstaller les personnes déplacées internes dans leur localité d'origine et aussi de travailler à ce qu'il y ait aussi un développement socio-économique.
Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, devrait être investi par le Conseil constitutionnel dans les prochains jours. Selon la charte de la transition, les principaux acteurs de la transition, le président, le premier ministre et le président de l'Assemblée législative ne sont pas éligibles aux élections présidentielles, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Tchad, le Premier ministre Salé Kebzabo a rendu public pendant le week-end la liste de son gouvernement de transition, composé de 44 membres, dont 4 ministres d'État, 13 femmes et 9 secrétaires d'État. Il s'agit d'un gouvernement d'union nationale sans les principaux opposants à la junte militaire qui a pris le pouvoir après la mort du maréchal Idriss Déby Itno. Réaction de quelques acteurs politiques et de la société civile dans ce reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar.
En dehors de ça, l'équipe Zabo, l'on note l'entrée dans cette nouvelle équipe dite d'Union nationale chargée de la mise en œuvre des résolutions du dialogue national, l'opposant modéré Laouka Nkroyo Médar, actuel maire de la ville de Moundou, et quelques ex-rebelles signataires de l'accord de Doha, notamment Tom Erdini de l'Union des Forces pour la Résistance UFR et Mohamed Asilek Alata de Force pour le Développement et de la Démocratie, FDDI. Quelques responsables des partis politiques de l'opposition donnent leur avis.
C'est un gouvernement de partage de gâteaux. C'est des gens qui ont vécu depuis le premier président qui continuent par sceller le sort des jeunes tchadiens, mais nous n'accepterons pas.
C'est la continuité. Même Salé Kebzabo, il est impliqué dès le début de la transition. Il a deux places dans le gouvernement et maintenant il est devenu premier ministre. Il met des copains, il met des amis, il met des parents. Ça fait honte quand ils ont mis le nom du gouvernement d'union.
Malum Yoboïde Ndjiraki, porte-parole de l'Alliance 43, coalition des partis politiques alliés à l'ancien régime, donne un avis contraire.
C'est un gouvernement des technocrates qui a pour mission de conduire le processus devant permettre au Tchad un retour à l'ordre constitutionnel durant les 24 mois. Les femmes déjà sont représentées à 27% dans ce gouvernement. Donc on ne peut pas jeter le discrédit à ce gouvernement. Donc nous disons que c'est un gouvernement qui traduit la refondation du Tchad tant souhaitée par les participants au dialogue national inclusif.
Pour Selim Narmadi de la société civile, c'est un gouvernement de récompense pour ceux qui ont validé le deuxième coup de force au Tchad.
Et il se tombe, il croit qu'il est encore en 90. Mais nous sommes en 2022. C'est pas c'est ça le Kebzabo là qui a accompagné Déby jusqu'à sa mort là.
Il était son opposant.
Quel opposant? Le jour il est opposant et la nuit il est quoi? Ce qu'ils ont fait dans leur monologue là. Toi-même tu parles avec toi-même, tu prends décision pour toi-même, tu veux appliquer cette décision là sur la population. Ça passera plus. Cette transition ne va pas durer.
Maître Gozo Turundudu, avocat de la coalition Wakitama, estime que le Tchad est à la croisée de chemin parce que, dit-il, le pouvoir que la charte de transition confère à Déby fils, même Déby père de son vivant, n'en avait pas.
Dans cette charte, c'est M. Mamata Kaka qui nomme les conseillers nationaux qui représentent en quelque sorte les députés. Qu'ils appartiennent, n'est-ce pas, à un autre pouvoir. Le même Mamata Kaka, c'est lui qui nomme les juges. Les juges appartiennent à un autre pouvoir. C'est lui le même là qui nomme le gouvernement et les membres du gouvernement. C'est dire qu'il a les pouvoirs des cieux et de la terre. Mais est-ce que c'est normal qu'on puisse confier le sort de tout un pays à une seule personne? Il n'est pas Dieu.
Les meetings pour le soutien à la transition politique en cours s'organisent déjà à N'Djamena, alors que l'Union africaine menace de sanctionner les autorités de transition pour non-respect de leur engagement. Le gouvernement que dirige Salé Kebzabo peut compter sur le carnet d'adresse du représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Mohamed Salé Anadif, nommé chef de la diplomatie tchadienne pour éviter les sanctions dans les jours à venir. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le Premier ministre de la République centrafricaine en visite à Washington dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI a été reçu à cette occasion au Département d'État américain où il a fait le point sur la situation politique dans son pays. Marius Muhunga s'est entretenu avec Félix Moloa, le chef du gouvernement centrafricain.
Nous avons été accueillis au département d'État où on a fait le tour des questions politiques. Et nous avons eu l'occasion de remercier les États-Unis qui contribuent énormément depuis le plus fort moment de la crise dans les actions humanitaires. Et nous avons eu aussi en bilatéral avec le président directeur général du Fonds saoudien, avec qui nous avons fait de la situation, le tour donc du projet dans le pipeline. Et ils ont beaucoup apprécié les réformes que nous sommes en train de mener sous la direction du président de la recherche des États, professeur François Ankache Touadéra.
Alors, votre pays sort d'une longue guerre. Où en êtes-vous aujourd'hui avec les efforts de la pacification du pays?
D'abord, c'est l'occasion de remercier la communauté internationale. Je l'ai dit tout à l'heure pour les États-Unis, mais aussi l'appui des alliés avec la MINUSCA. Il faut se dire que nous travaillons pour sécuriser le pays. Et aujourd'hui, nous sommes environ plus de 80%. Le territoire est sous contrôle. S'il y a quelques zones, c'est question des grands banditismes. Mais nous y travaillons. C'est pour ça qu'il est urgent que nous poursuivions nos actions pour que cette phase de sécurité retrouvée, que la population puisse en bénéficier.
Quelle est la mission des instructeurs russes dans votre pays?
Bon, les instructeurs russes sont venus, d'abord, sont passés par les Nations Unies, ce Conseil de sécurité. Ils sont là pour encadrer l'OFACA. Ils sont là pour nous aider à avoir des équipements pour protéger le pays.
Est-ce que c'est pour ça que la garde rapprochée du président de la République est faite par les Russes?
Mais il n'y a pas que les Russes là-bas. Il y a les FACA, il y a les Rwandais, il y a les Russes. C'est tout un mélange. Donc, on ne peut pas seulement faire un focus sur les Russes. De toutes les manières, c'est dans un cadre de coopération.
Qu'est-ce que paye votre pays donne en retour?
Non. Donner en retour, la question pourrait être posée pour les autres. Pourquoi ne poser que pour les Russes? Ça peut poser, on a eu des coopérations.
Vous devez, oui. Vous devez donner quelque chose en retour.
Non, qu'est-ce que vous donnez? Dans le cadre d'une coopération. La coopération, ça, il faut avoir la documentation pour le voir. On a eu, depuis fort longtemps, la coopération avec la France. Pourquoi la question n'est pas posée dans ce sens? On a eu la coopération avec la Russie, on a eu la coopération avec le Rwanda. Apparemment, c'est des questions géopolitiques. On ne peut pas se lancer là. Aujourd'hui, ce que nous gagnons, nous avons la paix, la sécurité.
La Cour constitutionnelle de votre pays a rejeté une proposition du président Touadéra de nommer une équipe pour modifier la constitution. Que va-t-il se passer maintenant?
Nous sommes en démocratie. Ce qu'il faut retenir, le pouvoir c'est pour le peuple. Et le chef de l'État, il est respectueux des institutions. Il est revenu sur les décrets. C'est tout à fait normal. C'est pour montrer qu'il respecte les institutions. Mais maintenant, il y a le peuple. Si le peuple insiste, certainement, ce n'est pas l'idée qui est remise en cause. Mais c'est la procédure. Certainement qu'une procédure sera trouvée.
Est-ce que le président Touadéra compte-t-il se représenter aux prochaines élections?
En ce moment, le président Touadéra ne s'est pas prononcé. Le problème, c'est est-ce que c'est ça qui crée la peur? De toutes les manières, laisser le soin à la population de se prononcer.
Félix Moulwa, chef du gouvernement centrafricain.
La voix de l'Amérique, Bondi 101.7 FM.
Ankara ou Kitenge, le tissu utilisé pour faire des designs africains est connu pour ses motifs colorés. Une jeune créatrice africaine s'est approprié le style et propose des vêtements de textile traditionnels. Un reportage d'Abyssan, le récit est de Blanche Salou.
Cécilia Aour a démissionné après avoir subi le harcèlement sexuel dans ses nombreux emplois. Elle a ouvert une boutique de création de mode au marché de Jericho, à Nairobi, au Kenya. 3 ans plus tard, elle possède 2 magasins et a embauché quelques employés.
Le pagne imprimé africain vient d'Afrique de l'Ouest. Les Nigérians et les Ghanéens aiment bien les couleurs vives. Mais vous pouvez aussi avoir quelque chose comme ce pagne africain sans trop de couleurs.
Elle gère une boutique avec un service complet. Les clients peuvent choisir les tissus, en apprendre davantage sur la culture, discuter de la conception et obtenir des mesures et des ajustements en une semaine. Cécilia Aour dit que son expérience en tant que mère l'a même inspirée à créer des tenues assorties mère-fille.
Elle est mon modèle car elle a été élue comme la toute petite Miss Kenya en 2016. Parfois, elle m'aide à faire les finitions. Vous réalisez que la plupart des clientes ont commandé des tenues à cause d'elle, pas à cause de moi. Vous voyez comme nos tenues sont assorties et les clientes diront « Waouh, vous êtes belle, puis-je avoir la même tenue ?»
Elle, c'est Pinky, la fille de Cécilia.
J'aime le mannequinat pour ma mère. Ma partie préférée est de mettre les boutons, de mettre les poches et de les concevoir.
Comme de nombreux entrepreneurs, Aour a découvert que gérer une entreprise n'est pas toujours facile. Mais suivre son rêve lui a permis d'acquérir la liberté financière, de promouvoir l'identité africaine et de développer une entreprise. Des réalisations impossibles dans ses emplois précédents.
C'était un risque. Si cela ne s'était pas produit, je ne pense pas que j'aurais pu démissionner. Je suis juste reconnaissante de faire ce que j'aime et donner le sourire aux gens.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebugia, à la mise en onde de Lionel Ronaniera Gahima, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA.